Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de fêter un anniversaire en voyageant sur la route inconnue. Eh bien, c'est chose faite à compter d'aujourd'hui. La présente édition de la route sera entièrement consacrée au 30e printemps de Lurçay que de nombreux poètes et éditeurs ont fêté les 11 et 12 avril derniers, in situ, c'est-à-dire à Lurçay dans l'Orne, pas très loin de Flers. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, le petit village normand d'Urçay est chaque année depuis 30 ans le théâtre d'une belle manifestation poétique inventée par le poète Jean-Claude Touzeille et à laquelle participent aussi, en plus des poètes invités, de nombreux habitants du village. Ce sont eux d'ailleurs, les autochtones, qui hébergent les poètes et les nourrissent durant le festival, ce qui donne à ce dernier une dimension conviviale unique en son genre. Les 11 et 12 avril dernier, nous avons promené notre micro partout où rôdaient poètes, éditeurs et édiles municipaux. Et je vous propose à présent de partir en leur compagnie sur les chemins de Lurçay. Tiens, j'aperçois une jeune poète là-bas. Allons voir de quoi il retourne.
Eh bien, on va commencer ce reportage sur les 30 ans de Lurçay par une nouvelle élue du chemin, Pascal Albert, qui a eu donc son poème dans le chemin de Lurçay. Comment ça s'est fait ?
Eh bien, parce que je connais Jean-Claude Touzeille depuis déjà quelques années, et il y a quelques temps, il m'a gentiment invité à venir à Lurçay, et évidemment, j'ai dit oui très spontanément.
Donc le chemin de Lurçay, c'est vraiment le cœur du week-end, c'est-à-dire qu'on se balade, et puis comme ça, le long du chemin, il y a des stèles de mots, et puis il faut les lire.
Oui, absolument, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. Bon, déjà, moi j'aime beaucoup la randonnée, donc l'idée d'avoir comme ça des poèmes le long d'un chemin de randonnée, je trouve ça vraiment magnifique, et c'est vrai qu'il y avait une ambiance très belle hier, puisqu'à chaque borne, on s'arrêtait, on écoutait le poète, ou une personne dire le texte d'un poète. C'était vraiment une très belle ambiance.
Rencontrer ses lecteurs comme ça en direct, c'est émouvant, non ?
Bah oui, c'est émouvant parce qu'on voit leur réaction et c'est vraiment très, très agréable.
C'est la première fois que vous venez à Lurçay ou que vous êtes abonné
C'est la première fois à Lurçay.
Alors, ouais. Vos impressions, c'est assez familial, non ?
C'est très familial et ça donne vraiment très envie de revenir.
L'actualité éditoriale de Pascal Albert.
Alors, pas vraiment d'actualité en ce moment. Le dernier recueil qui est paru, c'était chez Donner à voir. Et bon, là, il y a un projet en cours, un travail d'écriture en cours. Il faut juste que le temps qui m'est alloué par la vie soit suffisant pour aller au bout de ce projet. Mais oui, il est bien, bien, bien en cours.
On peut en dire deux mots ? C'est qu'il y a un sujet ? Je sais que par exemple, il y a eu un sujet, vous l'avez dit, sur la randonnée, ce qui tombait bien hier.
Oui, absolument. Effectivement, le texte qui a été mis sur le chemin des poètes, là, à Lurçay, c'est un texte sur la randonnée. Là, il n'y a pas... C'est pas vraiment un thème précis, c'est plutôt, je dirais, sur la vie, ma vie à moi, mais dans le monde, c'est-à-dire, j'observe, je vois le monde, il y a des choses qui m'arrivent. Et c'est par contre plus là dans la forme de l'écriture que je travaille. Oui.
Vous êtes une observatrice du monde ou...
Oui, je crois que j'observe beaucoup, beaucoup. Il y a des petites choses comme ça que j'ai envie de noter, de garder, et ça donne naissance à des poèmes, oui. Ouais.
Y compris des choses, là je viens de voir un très beau recueil, texte, photo sur les objets.
Oui, j'adore ça, dès que je vois un vieil objet, où je me dis mais à qui il a servi, ou à quoi ça sert. Oui, j'aime vraiment ça, observer, regarder, imaginer.
Pascal, merci beaucoup, et puis tout à l'heure.
Oui, merci Christophe.
Dans le sillon creusé par le sentier, entre deux champs de moutons, je me demande combien de marcheurs ils ont compté. Pascal Albert. Lurçay, c'est évidemment un esprit, ce sont des rencontres, des chansons, 9 km à pied. Ce sont aussi et surtout, évidemment, des livres de poèmes qui sont à découvrir le dimanche, très tôt le matin, à partir de 9h, 9h, 10h, jusqu'à tard dans l'après-midi, à l'occasion du marché de la poésie de Lurçay. J'ai choisi quelques poème que je vais vous lire tout au long de cette émission. Et la première sur la sellette, c'est Incertain, quelques extraits de Brume d'Aube, publié à l'atelier de Groutel chez Jacques Renoux. Jacques Renoux qui conçoit et fabrique des livres absolument délicieux qu'il imprime lui-même à l'atelier typographique de Groutel à Champfleur en Sarthe. Brume d'Aube d'Incertain. Écrire. Peindre et repeindre avec de l'eau pure un galet du désert chauffé à blanc. Entre deux soleils clairs, une giboulée de neige dans un ciel de perles. Le cœur en charpie, la lumière en flocons, c'est tout un. Le printemps coupe à grands ciseaux des échappées brèves par où je respire. Vue du verger, les ardoises du toit, la maison fluide traversée par la lumière carrée de ses vitres suspendues. Vue du verger, les pierres à silex, leurs étincelles, les allées diffuses, les ailes des ruches, la maison à miel, la haie de buis amer où dort l'enfant mort. Vue du verger, la rocaille, ses corbeilles d'argent, les briques recuites, des embrasures, leurs lignes de fuite. Vue du verger, la porte ouverte, la clé pendue, la maison vide et vendue. L'odeur douceâtre des pommes sûres dans les fruitiers obscurs a depuis le fond de mon enfance un goût de désespérance et de vie urgente tout ensemble. Ces automnes fermentés, nés de vergers en boutons, mais où loge donc entre deux la vie, et pleine, et ronde, et goûteuse, ma main n'a jamais frôlé que sa volatile esquisse dans le bleu de l'air. Aujourd'hui, je ne survis plus que dans l'ombre, l'ombre terreuse d'un fruitier désaffecté. Vue du verger, un midi de plein gel sur la plaine, en contrebas des pommiers, des barques rouges, leur cœur en poudre déversé sur les labours, naïve frondeuse, ma mémoire. De jardin, je n'en ai plus. Je paysage mon âme dans un carré de ciel entre la cheminée du voisin et le tilleul de la mairie. Ce carré de ciel fastueux, fouillis de couleurs d'oiseaux, banquise vibrante d'abeilles bleues, ou nues, nues comme un dernier cri. Je laisse faire. Viendra bien le temps où neigeront les pivoines pourpres du couchant. J'apprends à ne plus tirer de plan sur la comète. Je me regarde passer. Voilà, c'était des extraits de Brume d'Aube d'Incertain que nous aurons sans doute l'occasion de faire venir ici dans nos studios de Radio Ranciel pour La Route Inconnue, puisqu'elle réside en Eure-et-Loire. On écoute un peu de musique et on rejoint ensuite... Je ne vous le dis pas, mais ce sont deux grandes personnalités de Durset, puisqu'il y a parmi eux son père fondateur.
Ça y est, je les ai. Bon, Jean-Claude Touzet est le fondateur des printemps de Durset, du printemps poétique de Durset. Et puis, Georges Catalot, que je ne veux pas présenter si tout le monde connaît, évidemment. Tous les auditeurs de La Route Inconnue connaissent Georges Catalot. Alors, on va parler un peu histoire. Comment ça s'est fait, ce printemps de Durset, Jean-Claude ?
Au moment de la création ?
Oui, 30 ans déjà.
Oui, eh ben, c'est parti d'un groupe d'amis qui, justement, travaillait sur une radio libre, radiotonique à Flers, c'était donc il y a plus de 30 ans maintenant, et qui se sont trouvés un peu orphelins parce que leur tranche horaire était de plus en plus reléguée dans des horaires impossibles, et on a décidé d'essayer de le faire dans un lieu. J'habitais une petite commune, Durset, c'est comme ça que c'est parti.
Et la mayonnaise, si j'ose dire, a pris assez rapidement. Pour que ça dure 30 ans, il faut vraiment qu'il y ait une petite une recette et des ingrédients magiques, non ?
Oui, je
sais pas.
C'est
quoi les ingrédients ?
Si c'est un secret. Non, je blague, mais je ne sais pas très bien pourquoi. On a rencontré un public, j'ai l'impression, qui nous est resté fidèle. Bon, grosso modo, pendant toute cette période.
Ouais. Alors, je pense qu'il y a quand même un secret, moi, pour ce que j'en sais, c'est d'avoir aussi associé des gens de la région, du village, de leur faire rencontrer des poètes, de leur faire accueillir des poètes. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que Durset est assez unique par rapport à d'autres festivals, non ?
Oui, c'est tout à fait juste. Pour l'anecdote, ces bénévoles qui sont alloués 1000 fois, on les appelle affectueusement les hirondelles de l'ombre. Et c'est un titre
qui
bien... Voilà, qui font le printemps.
Alors on vient de loin, hein.
Oh là là.
On vient de très loin, ça va s'entendre.
Ça va.
Georges Catalot, donc vous êtes un ami de la première heure de Durset ?
Un ami du réseau, de Jean-Claude et tout ça. Et donc, qui, à force de persuasion, ont décidé à sortir de ma tanière, l'Oraguès, pour monter au nord. Voilà. Et bon, avec en toute amitié, bien sûr, et c'est que du bonheur. Ce sont des moments de partage. Et on remercie bien sûr non seulement Jean-Claude et puis toutes les hirondelles qui font ce beau printemps de Durset. Et le soleil sort en ce moment.
Ah ouais.
Voilà, pour répondre à notre souhait.
C'est important pour aussi des poètes de se retrouver parce que l'occasion n'est pas fréquente.
Voilà, tout à fait. Bon, pour parler sérieusement, en effet, on peut toujours plaisanter. Heureusement qu'il reste dans ce monde la poésie et l'humour qui sont deux fortes béquilles qui nous aide à avancer et à ne pas trop regarder dans le rétroviseur avec les événements récents et autres. Voilà, donc on peut faire comme à Durset, c'est la preuve vivante que l'on peut faire des choses très très sérieuses sans se prendre au sérieux. Voilà, pour une formule qui vaut ce qu'elle vaut.
C'est important aussi de se faire un public pour la poésie contemporaine. C'est pas gagné d'avance, on le sait bien.
C'est pas gagné d'avance, on le voit dans les écoles où on intervient. Comment tu es vivant ? Eh oui, je suis un poète. Les poètes sont tous morts. Or, c'est bien connu. Voilà, les représentations que se font aussi des adultes, hein, les petites fleurs, les oiseaux, etc. Et lorsque ces gens-là s'approchent un petit peu plus près et qu'ils se rendent compte qu'il existe, pour le moment où on parle là en ce moment, peut-être 20, 30, sûrement plus, poètes engagés dans des conseils municipaux, dans des... Bon, on ne va pas les citer tous, commencer notre ami Roland Nadeau, Jean-Claude Touzet ici présent, Jean-Pierre Thuyat, Louis Dubois, c'est on dit dans le midi, on dit Dubois, bon, Dubois qui fut conseiller municipal pendant très longtemps, et des dizaines d'autres, bon, et moi-même, pendant près de 40 ans dans un tout petit village. Donc, c'est pas seulement les poètes, des gens qui sont autour des mots, tout ça, ils sont aussi des gens d'action, et Jean-Claude, ici présent, prouve depuis 30 ans qu'avec ténacité, courage, hein, bon, c'est un peu le colibri de Pierre Rabhi qui met sa goutte. Bon, voilà.
Et puis vos poésies respectives parlent aussi de l'humain et de la vie ordinaire. C'est ça que peut-être que les gens ne savent pas finalement, c'est qu'on parle d'eux dans la poésie.
C'est tout à fait juste. Très souvent, l'image de la poésie est faussée, peut-être un peu par l'école, ou c'est moins vrai maintenant, mais au départ. En dehors de la rime, pas de salut. Bon, évidemment que c'est pas ça du tout. Et c'est quelque chose qui est destiné à tout le monde. Je veux dire, tout le monde peut y trouver son content, quoi.
Le thème du printemps des poètes, l'insurrection poétique.
Ben oui, c'est quelque chose, ça parle aussi. Oui, alors après, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, c'est vrai que...
Ah, ça fait débat ?
Oui, ça fait débat, on refermera très vite la parenthèse. Il y a les poètes engagés et les poètes dégagés. Bon, on reste dans la tonalité de chez Jean-Claude. Après le cercle des poètes disparus, il y a peut-être aussi parfois le cercle des poètes qu'il faudrait faire disparaître. Mais bon, on n'ira pas jusque-là. Bon, bien, refermons cette parenthèse humoristique.
Bon alors, 31e d'Ursay l'année prochaine.
Je pense que oui, il faut voir ce qu'en pense le président lui-même, mais à mon avis, c'est bien parti.
Ouais. Eh ben, bonne journée alors.
Il faudra se mettre sur son 31 pour l'an prochain.
Magnifique, Georges Catalot, merci. Le président, bah peut-être que le président a deux minutes consacré à la route inconnue.
Deux minutes, oui.
Alors, trois peut-être, mais... Alors, vous allez déjà vous nommer parce que je ne vous connais pas encore.
Alors, je m'appelle Jean-Pierre Gosselin, j'habite à Dursay, et donc je suis président de l'association du printemps de Dursay, j'ai pris la suite de Jean-Claude, ou du moins on s'épaule maintenant mutuellement, voilà.
Et donc la poésie faisait partie de quoi, de vos préoccupations, ou est-ce que c'est lui, là, à côté, qui vous y a emmené?
Ben, c'est-à-dire que j'étais déjà, je faisais partie de l'association, déjà depuis un petit moment, depuis un bon moment. Grâce ou à cause du printemps, j'habite Dursay maintenant. Pas très loin de chez Jean-Claude. Donc, ben voilà, c'est toute une histoire, toute une suite. Voilà.
Ce que je disais, c'est que la réussite de Jean-Claude, c'est d'avoir associé aussi les gens, en dehors des poètes, les gens du village, les gens de la région, à ce phénomène que le printemps d'Ursay.
C'est formidable, ça. C'est formidable. C'est 28 ans que Jean-Claude a œuvré, a travaillé. Et j'ai l'impression, moi, j'arrive derrière et je récolte que des fruits, quoi. Parce que ça, le fait que les poètes soient hébergés chez l'habitant, bon, je ne veux pas parler de la partie économique, quoi. Ça, évidemment, il est évident qu'on peut pas s'offrir l'hôtel. Mais au niveau de l'esprit, c'est génial. C'est génial. On a un poète chez soi, c'est superbe.
La présidence de Dursay, c'est du boulot quand même ?
Oui, c'est un petit peu de boulot quand même. Hein. Mais je ne suis pas tout seul non plus. J'ai aussi des petites dames, des anciennes astites. Triste, qui s'occupe de la partie scolaire, et ça c'est un gros travail aussi, et puis comment vous dire, moi, je ne suis que président, mais il y a plein de gens à travailler au niveau des cuisines, au niveau des installations, à tel point comme hier soir, je me demande s'il y a besoin d'un président, parce que depuis 30 ans, ben voilà, non mais tout le monde connaît sa place, sait ce qu'il a à faire. Le camion, là, il arrive tout seul. Je sais pas, bon, je sais à qui c'est, mais bon, voilà, je m'occupe plus de rien. Bon.
Et oui, ce qui est formidable à Dursay, c'est que tout le monde a du talent, tout le monde a de l'humour. C'est notamment le cas de Georges Brassens, avec qui nous allons passer une heure. Georges Brassens, qui fait l'unanimité à Dursay, depuis Jean-Claude Touzeil jusqu'à Guy Alix, qui souvent l'interprète à la guitare. Guy Alix, poète que nous retrouverons en fin d'émission, je vous propose d'écouter auprès de mon arbre.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
On ne peut évidemment pas parler du printemps de Durset, de ce 30e anniversaire, sans parler de Claude Ribouillot, dont le prix est passé vraiment à la légende. C'est quoi ce prix, Claude Ribouillot? Comment vous avez eu l'idée de ce prix?
Ah, mais moi, je n'ai eu aucune idée. On me l'a imposé, traîtreusement. Disons que le prix est décerné à un poète décidément inclassable. C'est ça, voilà. Je veux bien revendiquer ça. C'est vrai que poète, je veux bien. J'écris certainement des poèmes, mais j'écris pas que ça. J'écris beaucoup de bouquins d'ethnologie, d'ethnomusicologie, de chansons. Je fais des spectacles de marionnettes, de conteurs, voilà. Et donc, ça me convient assez bien. Et donc, ce prix, qui est une blague au départ, il faut le dire, est quand même un prix très sérieux, puisqu'il est recensé sur Internet dans la liste des prix littéraires, avec le prix de l'Académie française et des tas de choses très sérieuses. Bon, ça ne me flatte pas au-delà de la mesure. Alors, je ne fais absolument pas partie de la commission du jury qui décide qui va le recevoir. C'est donc pour moi une surprise chaque année. Il y a, et on gagne quand même à être connu d'abord, et puis ensuite on gagne une magnifique plaque. Au départ, c'était des plaques comme les plaques de concours agricole et gravées, et puis maintenant ce sont plutôt des plaques de rue, voilà, qu'on gagne à son nom, prix Claude Ribouillot l'année, etc. Et une œuvre d'art, oui, qui en général est d'une
inclassable elle aussi, hein.
C'est d'une considérable laideur, on peut le dire. C'est quelque chose. Et voilà. Et donc, et ce prix, il y a quelques années, je me le suis remis à moi-même, car le jury a été excité à l'idée de penser que j'étais peut-être le seul poète vivant à avoir un prix à mon nom de mon vivant. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai chez moi cette plaque magnifique. Et j'ai une des œuvres d'art les moins laides de toute la série, oui, puisqu'elle avait un rapport avec mes activités de musicien. Voilà.
Ça participe vraiment de l'esprit de Durset, je trouve, ce prix Claude Ribouillot, où voilà, on peut parler de choses sérieuses, mais on peut en parler en rigolant, quoi.
Moi, je crois que c'est très important, justement, l'humour, alors au sens, on va être sérieux, de Kierkegaard. C'est un petit peu ce qu'on peut espérer de mieux de l'humanité, d'avoir toujours du recul par rapport, de ne pas se prendre au sérieux. Même quand on est très sérieux, qu'on est dans l'émotion, avoir de l'humour. Et je pense que, bah, évidemment, on est complètement à plat ventre devant notre fondateur, le père Fonda. Quand j'ai écrit cette chanson, je ne savais pas que ce titre lui resterait fixé. Mais donc, on lui doit ça. Et lui, il a prouvé encore hier soir, il a beaucoup de sensibilité et d'humour. Et c'est...
On parle de Jean-Claude Touzeil. Hein.
Ben, bien sûr, Jean-Claude Touzeil, l'unique et respectable père fondateur.
Claude, un grand merci à vous. L'actualité pour vous, c'est quoi alors, en ce moment ?
Alors, l'actualité, c'est un livre qui va sortir en septembre. Ben, j'ai de la chance, j'ai un éditeur formidable, Actes Sud, les éditions du Rouergue. Et après le bouquin sur les musiciens de la Grande Guerre, la musique au fusil, ce sera un livre musique d'abord, des apostrophes à accent, sur les répertoires et les rituels musicaux des marins et des mariniers. Voilà, un gros bouquin très illustré. Et des chansons, pardon, voilà.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Impossible de parler du printemps d'Ursay sans interroger monsieur le maire de Ursay. Alors, c'est une belle journée dans l'année d'un maire que le printemps d'Ursay.
Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose à laquelle on tient par-dessus tout. Alors, ça fait 30 ans, moi, j'ai rien inventé. Hein. Je ne suis maire que depuis 7 ans à Ursay. J'ai pris le train en route, en quelque sorte. Mais obligatoirement, ça fait partie de la vie de notre commune, au même titre que les autres associations. On y tient comme à la prunelle de nos yeux.
Est-ce que, finalement, les habitants d'Ursay sont devenus comme ça au fur et à mesure des années des lecteurs de poésie?
Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que malheureusement, je crains fort que M. Touzeil, qui était le fondateur du printemps d'Ursay, il a fait ça il y a 30 ans. S'il fallait qu'il recommence maintenant, je pense qu'il aurait beaucoup plus de difficultés, parce que la vie a fondamentalement changé, tout simplement. Après, je pense que tout le monde est apte à lire de la poésie, à condition de vouloir s'en donner les moyens.
C'est votre cas, ça vous arrive, ouais, d'ouvrir des livres de poésie?
Ah, tout à fait. Et puis moi, je reçois, comme tout un chacun à Ursay, en tant que d'Ursetois, tout simplement, je reçois des poètes qui m'inondent de livres de poésie. Et donc, je prends un grand plaisir avec ça.
Ça, c'est le petit coup de génie hein, de d'Ursay, c'est finalement d'héberger le poète chez soi. Et ça crée une symbiose et une synergie.
Tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui a été très remarquée par la région, hein, la région Basse-Normandie, qui subventionne, je crois pouvoir le dire, puisque mon nouveau président est aussi un de mes adjoints, subventionne grâce et surtout parce qu'il y a cet effort de communication, d'échange, en recevant effectivement les poètes chez nous-mêmes. Quoi. Et ça fait des années que ça dure, et on a souvent, la plupart du temps, les mêmes. Donc il y a des amitiés qui se sont créées en plus de la poésie. C'est formidable.
Ce qui est aussi frappant, c'est intergénérationnel. Hein. Il y a des enfants, on a vu hier, par exemple, des enfants qui lisaient des poèmes.
Oui, hein. Oui. Alors ça, c'est aussi un des traits principaux du printemps de Ursay, c'est de faire intervenir les poètes dans les écoles. Donc au départ, on intervenait au niveau des poètes du canton, pour simplifier. Maintenant, on est sur 3 ou 4 cantons, et je crois que cette année, il y a dû y avoir une intervention, pas moins que dans 35 écoles quand même, ce qui est quand même assez remarquable.
Et puis ça resserre les liens entre toutes les générations, je trouve ça assez formidable. Moi.
Oui, de toute façon, bon, d'abord, premièrement, on n'a pas beaucoup de mérite à Ursay, parce qu'on est une commune très festive. Tout le monde est toujours au coude à coude quand il y a besoin de donner un coup de collier, comme on dit. Et effectivement, toutes les générations sont là. Bon, le problème, c'est qu'il faut essayer aussi de renouveler les troupes, je dirais. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Parce que malheureusement, les jeunes ne s'investissent pas beaucoup dans la vie collective, si vous voulez. Ça, c'est un petit peu dommage.
Mais rassurez-nous, l'année prochaine, il y aura un printemps d'Ursay.
Certainement. Certainement. Aucun doute là-dessus. Parce que les 30 ans, ce n'est pas une finalité en soi. Et puis de toute façon, moi je suis maire jusqu'en 2020, donc jusqu'en 2020 vous êtes certain de la chose.
Monsieur le maire, merci beaucoup et belle journée à vous.
Ah ben, avec grand plaisir, merci bien.
Au bois de la mare, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Je suis renommé pour avoir le cœur mal famé. Le cœur m'a famé au bois de vin. Vincennes. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Route Inconnue sur Radio Grand Ciel. La Route Inconnue, votre magazine de poésie vivante. Et vous l'aurez compris, nous fêtons les 30 ans du printemps poétique de Durset, de notre ami Jean-Claude Touzet. Durset dans l'Orne, où se déroule chaque année un festival assez extraordinaire, placé sous le signe des mots, mais aussi des rires et des chansons. C'est pourquoi nous passons cette émission en compagnie de Georges Brassens. Georges Brassens, dont un certain Guy Alix est un amoureux notoire. Guy Alix, fameux poète que nous avons rencontré, qui suit Durset et qui le fait vivre lui aussi depuis des années.
Guy Alix sifflait en sautoir avec les lunettes. Voilà. C'est la marque de fabrique. Et avec Guy Alix, on a évoqué évidemment les 30 ans de Durset. Alors on a déjà eu du monde, mais vous faites partie vraiment quand même des. Vous êtes là pratiquement tous les ans depuis pas mal d'années.
Non, pas forcément. Depuis, je dirais, 7 ou 8 ans. J'étais venu deux ou trois fois avant, dans une ancienne vie. Et là, depuis, oui, 7 ou 8 ans, je viens régulièrement à Durset, que j'aime beaucoup, parce que, initialement, je n'aime pas les salons. Je n'aime pas les salons de poésie. J'apprécie des fois modérément les poètes, parce qu'ils sont parfois décevants, il faut le dire franchement. Il y a les œuvres des poètes, et puis il y a les poètes eux-mêmes, bon, qui sont parfois décevants. Donc voilà, moi j'aime Durset, parce que justement ça rompt avec l'atmosphère générale qu'il y a dans les salons de poésie, où c'est quand même très très sérieux, très grave, etc. Là, il y a une atmosphère, il y a une ambiance à Durset qui est unique. Et dans les quelques salons que j'ai fait depuis 7 ou 8 ans, vraiment, Durset, ça sort du lot, parce qu'on a quelque chose de très très convivial, de très simple, de très humble, avec des gens généreux, avec beaucoup d'hirondelles. J'en vois une qui est en train de débarrasser la table devant moi, et c'est formidable. Il y a toute cette générosité à Durset qui tient, je crois, aussi au personnage qui l'a lancé, Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude et moi, nous connaissons depuis pas mal d'années. Je l'ai connu à Durset, et c'est quelqu'un de remarquable, qui veut vraiment donner, qui n'a que ce souci-là. Son œuvre est tout à fait intéressante. On écrit des choses complètement différentes, lui et moi, mais dans un respect mutuel, en fait. Et c'est vrai que c'est C'est quelque chose d'unique, je pense, d'Ursay. Et là, cette année, j'ai amené une amie qui venait de Vichy, qui ne connaissait pas du tout d'Ursay, qui est venue, qui a payé son billet de train, son transport, etc., etc., et qui est très heureuse qu'il revienne l'an prochain. Les gens viennent, ils ont envie de revenir, quel que soit le prix.
Vous m'avez coupé l'air sous le pied parce que, effectivement, ce qui est remarquable dans d'Ursay, c'est que ce sont des poètes d'origine, de provenance, d'écriture, de travail très différents, voilà. Et qui se retrouvent pour un moment de convivialité inouïe.
Mais parce que, justement, il y a quelque chose de très, très, je dirais, tolérant au niveau de l'écriture. Quelque chose de très accueillant ici. On accueille des voix différentes, des sensibilités différentes. Et je crois à partir du moment où il y a une certaine qualité humaine. Je crois que, et de ce point de vue-là d'ailleurs, entre Rougerie et Touzeil, il n'y a pas de différence. Rougerie, vous me dites, oui, c'est quelque chose d'exigeant, de grave.
Non, mais je ne l'ai pas dit comme ça en faisant la moue. Hein.
Oh. Non, mais j'ai bien compris. Mais Rougerie avait une exigence humaine. Moi, j'ai pas mal connu le fondateur des éditions Rougerie, René, qui était pour moi comme un papa. Quand un poète venait, qu'il avait un bon texte, et que derrière on s'apercevait qu'humainement c'était un peu contestable, le poète ne revenait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on faisait partie d'un jardin. D'ailleurs, beaucoup de poètes de chez Rougerie ont parlé de Rougerie en termes de jardin. Et il nous invitait, à un moment donné, on devenait amis. Il nous invitait chez lui, c'était un jardin, comme à d'Ursay. C'est pareil. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a. Et je pense que Jean-Claude, il a une exigence aussi. Ça peut être un petit peu différent de la sensibilité Rougerie, mais. Et une exigence, et fondamentalement ce qui les rassemble, c'est une exigence humaine. Voilà, c'est-à-dire que on n'accepte pas trop les salauds et les ordures à d'Ursay ou chez Rougerie. Je crois qu'à un moment donné, j'aurais d'ailleurs un gag que je n'oserais pas raconter, surtout en citant le nom.
Pourquoi pas.
Où, à un moment donné, je suis rentré en contact avec René. J'avais une invitation, je ne vais pas citer le titre, de quelqu'un qui m'invitait dans une espèce d'anthologie. Il m'a dit, moi j'ai du mal à joindre Rougerie, je comprends pas trop, est-ce que vous pourriez intercéder pour moi pour publier vos textes qui viennent de paraître, qui me plaisent beaucoup. Et j'ai téléphoné à René, et René m'a répondu aussitôt, écoutez, à l'époque on se voyait, je n'ai pas encore rentré dans le jardin. Voilà, parce qu'il y avait des cercles concentriques un peu au début, bon, on était auteur, et puis à un moment donné, on devenait amis. Et il m'a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi je ne veux pas en entendre parler, c'est une ordure. Voilà. C'est très dur.
C'était très abrupt.
Oui, c'est très abrupt, mais en même temps c'est exigeant. Voilà, c'est-à-dire que, après tout, nous prononçons tous les jours des jugements un peu abrupts, et ça peut être bien de s'y tenir. Voilà. Alors on peut rester humain, bien sûr, mais on a eu une exigence. Et je pense que chez Jean-Claude, c'est un petit peu la même chose quand même. Je pense que n'importe qui ne peut pas se produire à d'Ursay. Vraiment.
Vous permettez qu'on parle un peu de vous, parce que je vous ai sous la main et peut-être que ça ne va pas se reproduire avant l'année prochaine. Alors, moi, je voudrais savoir comment Guy Alix est venu en poésie.
Ou très très simplement, moi je viens d'un milieu très très modeste où la poésie n'existe pas, où il n'y avait pas de livres. C'était un milieu, j'ose dire entre guillemets misérable. Et donc pour moi j'ai rencontré la poésie à 17-18 ans avec des chanteurs. Et ça c'est quelque chose qui nous unit aussi je pense Jean-Claude et moi, des chanteurs qui s'appelaient Brassens, Brel, Ferré, Barbara, etc. Et pour moi la poésie c'était d'abord ça. J'ai appris d'ailleurs à jouer de la guitare en même temps. En guitare je suis resté très très médiocre.
Enfin la guitare ne vous quitte pas, hein. C'est comme le vélo.
Voilà, je suis resté très très médiocre, mais j'aime beaucoup chanter. Je continue de chanter du Brassens, du Brel, etc. Du Ferré aussi, du Vian, que j'incorpore d'ailleurs à un récital maintenant que je me produis sur scène. Mais pour moi, la poésie, c'était d'abord ça. Et puis après, bien sûr, j'ai lu des poètes, vraiment, que je n'avais pas lu avant. J'ai lu Éluard, j'ai lu Breton, j'ai lu Follin, qui nous unit tous deux. Et voilà, mon écriture a changé, s'est métamorphosée. J'ai quitté cet espoir de faire de la chanson, de devenir le nouveau Brassens. De toute façon, il n'y aura pas d'autre.
Parce que votre poésie ne doit rien à cette poésie chantée, qu'on pourrait dire. Non. Moi, je vous vois plutôt du côté, effectivement, des surréalistes, ou voire de Char.
Char a été pour moi un maître en exigence, quelqu'un qui se tenait à l'écart, qui écrivait, qui avait une grande exigence dans l'écriture, et c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Mais Follin m'a énormément marqué aussi, Follin que j'ai découvert quasiment après Char, d'ailleurs. Et j'ai fait écrire Char, d'ailleurs, sur Follin. Bon, une histoire, un défi de gamin, hein, mais je suis assez très gamin, d'ailleurs, j'ai pas honte du tout. Voilà, effectivement, c'est une écriture qui ne doit rien à la chanson. Oui. Même si ça peut m'arriver de commettre quelques chansons comme ça, mais à la marge.
Guilvy disait que la poésie est la sculpture du silence. Je trouve que votre poésie est sculptée, non ?
Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Follin, qui avait influencé Guilvy, quand même, il faut le dire, Follin disait « Je ne conçois rien sans la plastique ». Voilà, la plastique, alors pas dans le sens du plastique tel qu'on le connaît, mais la plastique, c'est-à-dire la plastique du style. Et donc, effectivement, à un moment donné, on sculpte un poème, il tient debout, je dirais, et bon, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop expliquer en tant que poète. Et il faut être très, très humble par rapport à ça, mais à un moment donné, ce poème, il tient debout, et c'est quelque chose de plastique, c'est quelque chose qui tient à la sculpture. La sculpture tient debout, elle est sur son socle, et c'est bien. Voilà.
Alors, il y a des poésies où on imagine des gens l'écrivant en marchant. Ou... Moi, je vous vois plutôt sous la lampe avec des nuits blanches.
Et j'ai écrit beaucoup en marchant aussi. Oui, j'ai écrit beaucoup, peut-être moins maintenant. Mais alors, je ne me mets jamais à mon bureau en me disant tu vas écrire un poème.
Il n'y a pas des nuits de poésie chez vous ?
Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Je suis plutôt nocturne, effectivement, dans l'écriture. Mais voilà, je ne décide jamais que. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des notes qui viennent, il y a des petites choses qui peuvent être très très humbles au départ. Ça peut être très humble à l'arrivée aussi. Voilà, je ne conçois pas la poésie sans un miracle d'humilité à la base, disait René Guy Cadou. J'adore cette phrase. C'est vraiment, je suis pas un grand lecteur de Cadou, mais j'adore ça. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, ça doit être humble. Donc il y a des petites notes comme ça qui viennent, et puis à un moment donné, je retravaille éventuellement à l'ordinateur. Voilà. Donc de façon un peu moderne, entre guillemets.
Vous avez le sentiment que la poésie vous mène quelque part ? Oui. C'est une question qui me vient comme ça. C'est une assaise, est-ce qu'elle vous...
Nulle part de Heidegger. Bon, je ne suis pas un grand lecteur de Heidegger non plus.
Si vous aimez Char, vous aimez Heidegger.
Oui, pas forcément. Je préfère le Char ami de Camus que le Char lecteur de Heidegger. Je pense qu'il y a une différence entre les deux Chars, et j'aime beaucoup plus la période ami de Camus. Ils ont écrit, il y a une correspondance qui est parue en 2007, l'année du centenaire de Chars, qui était très très belle. La correspondance entre ces deux amis, qui sont, vous voyez, toute leur vie, hein, on vit dans un monde différent maintenant. Et ça, j'admire Camus, et j'admire Chars aussi. Et l'œuvre de Camus est beaucoup plus essentielle que l'œuvre de Heidegger. Ça, incontestablement. Je ne sais plus quelle était la
question. Oui, alors, est-ce que la poésie vous mène quelque part ? Est-ce que vous avez le sentiment d'aller quelque part, d'aller vers quoi ?
J'ai oublié la question parce que je ne sais pas où elle me mène. Et je ne veux pas le savoir. Justement, alors, je viens d'employer le terme savoir. Pour moi, la poésie est une forme, et on retrouve ça chez Follin, là encore. C'est la connaissance d'une impossibilité de connaissance. Et donc on ne peut pas savoir où elle nous mène. Follin dit ça dans une très très belle causerie, à un moment donné, voilà, s'il y a une connaissance de la poésie, et c'est quasiment contre Rimbaud, contre cette volonté prométhéenne du voyant, du suprême savant, etc. Il dit, ben voilà, la poésie c'est la connaissance d'une impossibilité de connaissance. Et je crois fortement à ça. C'est-à-dire que si on réussit à affirmer cette impossibilité de connaissance, cette impossibilité de savoir, je pense que dans un certain sens on est beaucoup plus savant, parce qu'on évite les dérives du savoir. Et il y a un mot que je n'aime pas, alors je l'aime dans le quotidien naturellement, qui est le mot vérité. Je me méfie énormément des gens qui détiennent la vérité. Pour moi, voilà, les gens qui détiennent la vérité nous inscrivent dans l'errance et dans le mensonge. Et je préfère la vraie errance, la véritable errance, où on sait qu'on erre. Et sachant qu'on erre, on est moins sujet à aliéner l'autre. Alors que, effectivement, le détenteur de vérité, on sait ce que ça donne. Quel que soit le pays, quel que soit le régime, les dictatures sont des détentrices de vérité. Voilà. Donc pour moi la poésie, oui j'oserais dire qu'elle ne mène nulle part et qu'elle erre justement. Et c'est bien d'errer, errare humanum est, bon bien sûr, et alors sat diabolicum, bon d'accord, mais je pense que c'est bien d'errer en savoir qu'on erre, voilà, en sachant qu'on erre.
Quand vous avez réussi un poème, enfin quand vous avez le sentiment que voilà, le poème est terminé, vous êtes comment devant? Vous êtes quand même heureux, il y a quand même une forme de... Voilà, ce poème est là, il exprime quelque chose qui devait venir. Vous êtes, comment, je ne sais pas, votre relation à votre... Je vous emmerde avec ces genres de questions, hein, je le sens.
Non, pas du tout, mais j'ai mon ami Jean-Michel qui voulait me parler, là, et bon...
C'est la dernière question.
Non, c'est pas grave. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression d'un travail que j'ai fait. Voilà, et c'est important, voilà, c'est fait. Je ne sais pas ce que ça vaut.
Il y a une joie quand même, non ?
Il faut être très très objectif par rapport à ça. Vous savez, le nombre de poètes qui ont écrit et le nombre d'œuvres qui se sont effacées, c'est énorme, beaucoup plus énorme que le nombre d'œuvres qui y sont restées. Donc pour moi, voilà, j'écris, j'éprouve peut-être une certaine satisfaction à un moment donné parce que voilà, j'ai fait et je me dis ça tient, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Je peux me dire ça tient, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Et après, bah, c'est, on ne sait pas. En même temps, je pense que la poésie, c'est un rapport d'amitié, en gros. Et je m'en fiche d'avoir 100 000 lecteurs, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour, peut-être, dans 10 ans, dans 15 ans, quelqu'un, un homme, une femme, lise un poème de moi à sa table. Devant un feu, devant une petite lampe, devant une bougie, et qu'il soit ému par mes paroles comme le serait un ami. C'est tout ce qui m'intéresse.
Merci beaucoup. Et puis on va continuer avec vous, enfin nos auditeurs vont continuer avec vous, avec la lecture de quelques-uns de vos textes. Un grand merci, Galix.
Merci beaucoup.
Parfois, tu ne prononces que des mots simples et fatigués. Ce rythme lent des jours qui passent. Cette peine qui ne dit pas son nom, des mots lourds d'habitude et de terre, et qui font si mal de résonner soudain dans la sombre défaite. Tu n'es passé qu'ici, sur le bord d'une peau, dans l'exil fatigué de qui voulait être au monde. Tu n'es passé qu'ici, sur le bord d'une femme, dans le creux d'un seul corps. Seul, et ce nom seul, étouffé comme un aveu. Si peu de la peau sur le bord de vivre, quand ses déchirures et cris versés, à la blanche pâleur de l'insupportable. L'épuisement, cette misère, ce visage qui trace l'absence sourde, se répète lancinant, cette plaie dans la béance du monde et l'urgence qui tiraille, se sent percé de toutes parts. Se ressourcer à la sage terreur qui dit le monde, qui te plonge dans la défaite humide du soir. Cette défaite, la fatigue la prenait par les épaules, elle perdait son sang lentement, elle se courbait vers son ombre, et son ombre déjà pliait le soir à ma vue, et son sourire se brisait les dents à l'horloge pâmée. Le silence passait sur elle comme un linge. La terre qui grouille de sens et le sang donné, la terre riche des morts jusqu'à la levée de l'arbre. Rêve limpide des fleurs qui se souviennent de la nuit, qui lentement y retournent. Réseau serré des feuilles et le feu qui se transfigure, qui s'inscrit là, dans sa cendre. Ici un nom, le cercle des sens et l'échouage nécessaire, l'appel muet de ta parole, qui n'attend pas même l'ombre d'une femme, le sang versé de la nuit à l'amour. Tu t'étonnes, t'expires ici même, dans le vœu de la nuit lucide, dans la fièvre d'une seule parole, la plus juste, la plus vaine, enfin de ce vrai lieu perdu. L'hiver persiste au plus loin, le gel aux doigts, le givre aux yeux, dans l'étendue silencieuse et nacrée de la défaite. L'encre sous la neige et la peine blottie au fond du ventre. Voilà, c'était quelques tout petits extraits de Solitude de Guy Alix, publié chez Rougerie et préfacé par Bernard Noël. Et à présent, nous retournons à Durcé pour la fin de ce 30e anniversaire du printemps poétique de Durcé, c'est-à-dire de Jean-Claude Touzeil.
Last but not least, Yves Barré, c'est le dernier intervenant pour ce numéro spécial La Route Inconnue sur le printemps de Durcé. 30e anniversaire du printemps de Durcé, nous voilà au soleil, assis sur un banc de pierre avec Yves Barré qui est un... Ah oui, quand même, un ancien de l'aventure de Durcé, non ?
Oui, un ancien, c'est pas flatteur. Non, oui, un des premiers, ouais. Oui. Et puis fidèle, donc c'est une qualité qu'on ne connaît pas ailleurs, mais en tout cas en poésie, si.
Ouais. Comment ça a démarré l'aventure pour vous ?
Alors, j'ai d'abord rencontré, c'est Jean-Paul Touzeil qui nous a amenés là, donc je l'ai rencontré sur les 24 heures du Livre du Mans. Il était derrière une pile de bouquins et qu'il n'arrivait pas à vendre. C'est là, la poésie, ça se vend pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai feuilleté un de ses bouquins et y a un texte qui m'a plu. Donc j'ai pris un texte et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis après, bon, j'ai appris qu'il organisait ici ce printemps de la poésie. Donc voilà, on est venu voir, on a rencontré les gens d'ici et puis on était tellement bien accueillis qu'on est resté en fait, qu'on est revenu chaque année, quoi.
Alors, tout à l'heure, j'ai interviewé Guy Alix. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout, géographiquement, mais aussi au niveau dans leurs univers poétiques. Et ils sont tous bien ici. À votre avis, pour quelle raison ?
C'est lié plutôt à la qualité de l'accueil. Parce que c'est Jean-Claude Touzeil, en fait, il a réussi à fédérer autour d'un projet de poésie qui est vraiment un truc, il faut être un peu farfelu pour faire ça, les gens de son village. Et c'est ces gens-là qu'on a rencontrés, qui participaient, qui donnaient la main, une des premières émotions, c'était des gens du village qui nous rendaient service sur le salon de la poésie, et puis l'après-midi allait arbitrer les matchs de foot qui étaient juste à côté, puis revenait, quand le match était terminé, il revenait avec nous. C'est vraiment assez formidable.
Oui, c'est assez rare, parce que généralement dans les villages en poésie, enfin en tout cas les lieux comme ça où il y a des festivals de poésie, la population locale n'adhère pas forcément, il faut aller la chercher peut-être. Et puis l'histoire des bergers, finalement des poètes, c'est pas mal du tout ça.
Oui, donc finalement on s'est fait des amis ici chez qui on va tous les ans. Ouais. On revient tous les ans. Voilà.
Ouais, s'il y a vraiment un village qui mérite le label village en poésie, c'est bien Durcé pour des tas de raisons. Quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Ah, oui, oui. Le label village en poésie, tout à fait. Ouais. J'en connais d'autres, des villages en poésie où il y a une belle action qui est faite autour de la poésie, mais il n'y a pas cette adhésion des villageois. Oui, non, c'est vraiment étonnant. Même si c'est des gens qui lisent pas la poésie par ailleurs. Mais il y a un moment où ils sont à l'écoute de ce qui se passe. Il y a tous ces temps-là. Ouais.
C'était Yves Barré qui vient de faire paraître aux éditions Vincent Rougier, collection Ficelle, État de chaise. Yves Barré est poète, il est aussi graveur et dessinateur. Et c'est lui qui a tout fait dans État de chaise. Il y a des dessins formidables et des poèmes qu'on ne peut pas classer entre humour surréaliste et puis poésie. Voilà. Yves Barré, qui vient de faire paraître aux éditions Vincent Rougier, État de chaise, texte, dessin et gravure de l'auteur. Je ne résiste pas de vous lire au passage quelques petit passage de ce recueil tout à fait inclassable qui décline la chaise dans tous ses états. Histoire de fesses que se racontent les chaises. Les jours s'en vont, la chaise de jardin sent la rose. Pour atteindre l'inaccessible, appelle à la chaise qui demande seulement la lune. On lange le condamné pour qu'il ne conchie pas la chaise électrique. On n'est plus des sauvages aux États-Unis d'Amérique. Chaise qui lâche un paix prétend que son bois craque. C'est humain. Que la chaise lui fasse du pied laisse la table de marbre ou de pierre, selon son bois. Paul est pris de Virginie. Des deux chaises, l'une reste vide. Chaise sur le seuil, un soir d'été, deux vieux regardent la vie se coucher. À Saint-Symphorien, commune en Sarthe, les chaises de la salle du conseil municipal bruissent en paix sous les élus authentiques. Quand la chaise joue au psychanalyste, le canapé est patient. La chaise perd son pied de biche, Louis XVI forge des rossignols. Fin de règne. La chaise au repos diffère de la chaise active, fondamentalement. Le dédain des culs à fauteuil préserve la chaise des pointes de l'épée et du bicorne, trait tiré sur l'académie. Chevauchée à califourchon, la chaise se voit la plus noble conquête de l'homme. Voilà, il y en a plein, t'es comme ça. État de chaise, c'est aux éditions Vincent Rougier, collection Ficelle. L'atelier Vincent Rougier se trouve au lieu dit Les Forêtes, F-O-R-E-D-T-E-S, 61 380 Soligny-la-Trappe. Voilà, cette édition 100% d'Urcé se termine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée à notre écoute, bien sûr. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure sur la route inconnue.
Faire comme. Faut faire comme. Comme la com, comme il faut. Faire comme. Faire comme. Faut faire comme. Comme la com, comme les stars, comme le devoir. Faire comme. Faut faire comme. comme la com, comme tout le monde, comme tout le monde qui fait comme tout le monde. Faire comme, faut faire comme, comme la com. Faire comme toi, faire comme moi. Faire comme, faut faire comme, comme le fer, comme l'acier, comme les affaires. Comme on se fait chier. Comme, faut faire comme, comme ceux qui font, comme ceux qui touchent le fond. Faire comme la com, faire comme, comme, faut faire comme, comme un avion sans...